Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Depuis la semaine dernière, on parle pas mal des secondes chances, on parle du passé qui peut ressurgir, on parle des choix qu'on a à faire en amour. On parle de ce qu'on abandonne, de ce qu'on laisse sur la route. Et ça, c'est parce que toute l'équipe de Aix a adoré le nouveau film de Stéphane Brisé qui s'appelle, je vous le rappelle, Hors saison, film avec Guillaume Canet et Alba Rohrwacher. Et ça parle de ça, ce film. Des amours passés, de ce qui nous en reste, de ce que ça a fait de nous. D'ailleurs, vous qui aimez les histoires d'amour, on ne peut que vous conseiller d'aller voir ce merveilleux film. Nous, on a eu la chance de le voir en avant-première. Mais il sort le 20 mars au cinéma. Tous ces thèmes, donc, on va les retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, encore une fois, parce que oui, les histoires d'amour passées peuvent nous suivre, voire nous poursuivre toute la vie. On peut rester accroché à un amour inoubliable, on peut chercher des ombres, on peut d'ailleurs ne jamais oublier. Et puis, comme Frédéric, on peut transformer ces ombres en réalité, on peut forcer le destin et on peut retrouver le passé.
Alors, à ce moment-là, j'ai 7-8 ans, je dirais. On est en CE1, à l'école de Pantin. Et à cette école-là, en fait, on se retrouve avec Nathalie dans la même classe. Au fur et à mesure de l'année scolaire, en fait, on échange des regards, on joue dans la cour ensemble. Souvent, on se cherche, en fait. Hein. Alors, Nathalie, elle ressemble à une petite fille avec les cheveux très longs. Moi, je me rappelle qu'elle avait les cheveux au bas des reins. Et elle était typée asiatique. Et c'est ce qui m'avait attiré, en fait, au premier abord, en tout cas. Voilà, au fur et à mesure de l'année scolaire, de plus en plus, on se côtoie. De plus en plus, on joue ensemble. Même des jeux, je dirais, où on se cherche, en fait. C'est-à-dire qu'on ne joue pas pour jouer, on joue pour se chercher mutuellement, en fait, tout simplement. Au départ, c'est amical, et puis petit à petit, effectivement, la relation bascule dans de la, je dirais, déjà à l'époque de la séduction, d'abord, et puis après, effectivement, un amour d'enfant. À chaque fois que je la regarde, moi, j'ai comme un petit frisson. Plus ça va aller dans le temps, et plus cette relation devient nécessaire. Alors, quand on jouait ensemble, par exemple, à l'époque, on jouait à la princesse, au chevalier, ce genre de situation. Et en fait, c'était elle la princesse, c'était moi le chevalier, servant. C'était vraiment, je dirais, avec le recul du romantisme. On s'est connus donc à Pantin. Moi, je déménage en fait à Bobigny, un an plus tard. Donc, du coup, on se quitte, on ne se voit plus. Et il se trouve que l'année d'après où j'ai déménagé, en fait, on s'est retrouvés à Bobigny, l'un en face de l'autre, dans une tour et dans le même groupe scolaire. Un an après, en fait, on s'est retrouvés à nouveau. Et on jouait avec des camarades dans la rue. Et j'entends crier « Frédéric, Frédéric ». Et donc, je lève la tête. Et en fait, j'aperçois sa sœur et elle qui me regardaient et qui m'avaient reconnu, en fait. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés la première fois, en tout cas. Alors, quand je la retrouve, ça me provoque une grande joie et un grand bonheur. Et tout de suite, en fait, les regards se croisent à nouveau. On est à nouveau, je dirais, en symbiose. On habitait à 300 mètres l'un de l'autre, hein, et on se voyait à travers les balcons, en fait. Et donc, on se voyait tous les jours. Et c'est un bonheur permanent, tout simplement. On joue au bas des tours régulièrement, tous les week-ends, tous les soirs quand on avait fini nos devoirs, bien sûr. Et aussi à travers le grillage qui nous séparait au niveau des groupes scolaires. En CM2, mon père passe un concours, il réussit. Et donc, je pars à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, effectivement, à l'époque, je ne savais pas où c'était. Donc, pour moi, c'était le Canada, hein, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et je dis ça à Nathalie. Une petite blessure, je dirais. Pour pas qu'elle m'oublie, en fait, je lui offre un petit corps en miniature avec deux autres petites peluches en porte-clés. Et ce corps en miniature, en fait, c'est mon père qui l'avait eu en cadeau. Et c'était un corps en miniature qu'un ami lui avait donné qui travaillait à Air France. Et à l'époque, c'était pour l'inauguration du premier vol Alger-Paris. Et donc, c'était un porte-clés qui avait une certaine valeur pour mon père. Et donc, je lui vole ce porte-clés et je lui donne avant de partir en lui disant que je pars au Canada. Elle a été surprise, je pense, et puis aussi triste. Triste parce que je partais et puis on se séparait quelque part. À cet âge-là, je pense pas vraiment que c'est la fin. Pour moi, c'était ma princesse. Hein. Et donc, ça serait toujours ma princesse. Je pars, mais toujours avec l'espoir qu'un jour ou l'autre, je la retrouverai. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la vie reprend son cours. Hein. Alors, il fait très froid, mais c'est super joli. C'est très, très sauvage. Donc, moi qui aimais la nature, je vais à la pêche, je vais à la marée. Mais je pense toujours à elle. Quand j'entendais Nathalie, tout de suite, je regardais qui c'était, quoi. Dès que je voyais une fille et plus tard une femme avec les cheveux longs type asiatique, je voulais savoir si c'était pas elle, tout simplement. J'ai jamais eu de nouvelles d'elle et j'en ai jamais donné parce que malheureusement, quand on s'est séparés, on n'a pas du tout pensé à se donner nos adresses. À l'époque, jamais j'aurais pensé noter l'adresse quelque part. Alors, à l'adolescence, effectivement, je rencontre des jeunes filles, hein, bien sûr. Plus je grandis et plus le souvenir de Nathalie reste clair et présent dans mon esprit. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où j'étais, quelles que soient les filles ou les femmes que j'ai pu rencontrer, j'oubliais pas non seulement le visage, mais tous les moments que j'ai pu passer enfant avec elle. Alors, je fais des études d'océanographie. Et puis, je fais mon service militaire. Et en revenant du service militaire, j'ai fini mes études. Donc, je viens en Corse pour travailler dans l'aquaculture, donc l'élevage du poisson en mer. Donc, j'arrive en Corse, effectivement. Et durant tout mon parcours, en fait, j'ai des histoires sentimentales, mais elles sont pas puissantes. C'est-à-dire que, en fait, j'ai des histoires sentimentales, comme tout jeune homme, mais sans lendemain. Je me projette pas, en fait. Je me projette pas du tout. Et à l'époque où j'arrive en Corse, effectivement, je rencontre une Nathalie. Et donc, on a une histoire ensemble. C'est juste une amourette, je dirais. C'est pas l'amour de ma vie. Non, je me sens pas amoureux. Il me manque quelque chose, en fait. Parce que je pense toujours à ma Nathalie, en fait, de l'enfance. Et donc, j'arrive pas à passer au-delà. Le 14 juillet 1990, je reviens d'Ajaccio avec des amis et ma cousine. Et donc, nous, on revient d'Ajaccio, effectivement, à 22h30, donc il fait nuit. Et sur la route du retour, ben, il se trouve qu'il y a un accident qui s'est produit juste avant, entre deux voitures. Et il y a une des voitures qui est immobilisée sur ma voie de circulation et qui est tout feu éteint et donc qui n'a pas pu être dégagée et qui n'a pas pu être signalée à temps. J'arrive donc sur cette voiture, je ne la vois pas et donc ben, je rentre dedans. Hein. Et la voiture qui me suivait derrière me rentre aussi dedans et me soulève et me met sur le bas-côté, jette ma voiture dans le fossé. Donc du coup, sur le premier choc, j'ai rien, mais sur le deuxième choc, effectivement, j'ai le coup du lapin. Et donc j'ai quadruple fracture de la mâchoire, des côtes cassées, traumatisme crânien, je perds connaissance. Alors, on me transporte en hélicoptère à l'hôpital de Bastia, et je suis dans le coma. Et au bout de 10 jours, je me réveille. Alors le réveil, il n'est pas évident parce qu'on a les yeux fermés. J'ai la mâchoire fermée aussi, hein, puisqu'elle a été liée avec des liens en métaux pour que ça se soude. Et j'ai une trachéotomie, donc en fait je respire par la gorge. Je me réveille, mais je ne peux pas ouvrir les yeux parce que j'ai la tête enflée. Et j'essaye d'écrire. J'essaye de me faire comprendre pour pouvoir écrire. Et en fait, on me dit, parce que j'entends par contre, et on me dit que j'arrive plus à écrire. Donc voilà, ça c'est mon réveil. Ben, je me sens content parce que je suis vivant déjà. Donc c'est déjà pas mal. Une des premières pensées que j'ai, c'est il faut absolument que je retrouve Nathalie. Bon, après les pensées vitales, hein, bien sûr, hein, pour savoir ce que j'ai, etc., ça, on me le décrit, mais la première pensée que j'ai après, c'est il faut absolument que je retrouve Nathalie. Et à l'époque, il y avait mes parents qui sont à mon chevet, hein, bien sûr. Et au deuxième ou troisième jour, le premier mot que j'arrive plus ou moins à écrire, c'est Nathalie. Donc, sorti de l'hôpital, et j'ai mis 4 mois donc, pour reconstituer physiquement et psychiquement. J'ai eu cette volonté de la retrouver et je m'étais dit, si j'y arrive pas par Minitel, ben, j'irai à Bobigny et puis j'irai dans les tours Karl Marx et j'irai voir si elle est encore là-bas. Je savais que j'avais très très peu de chances que ça arrive, que je puisse la retrouver comme ça en tout cas. Je suis passé près de la mort et je ne voudrais pas partir sans la revoir. Je ne fais pas d'extrapolation, je ne fais pas de prévision. J'imagine rien, en fait. Je reste sur mes rêves d'enfant. En faisant des recherches sur Minitel, donc à la sortie du coma, je retrouve sa maman. Alors je me dis, est-ce que je la contacte ou est-ce que j'essaye de rechercher par d'autres moyens? Et je me dis, non, pour l'instant, je ne vais pas la contacter. Je garde son adresse, mais je ne vais pas la contacter. Je vais essayer de trouver Nathalie par moi-même. Parce que je voulais quelque part aussi que ça soit quelque chose entre nous deux, comme le lien qu'il y avait eu dans l'enfance. Je voulais pas d'intermédiaire, en fait. Je recherche encore, et il se trouve que, je crois, un mois après, je refais une recherche sur Minitel, et elle apparaît. Et donc là, ben, voilà, je dis, bon, ben, c'est bon. Alors, ça provoque une émotion forte, mais surtout de la joie. Surtout de la joie. Le destin fait que, à nouveau, après 19 ans de séparation, je dirais, on a la possibilité de se revoir. Et donc, il se trouve qu'à ce moment-là, je dois aller sur le nord de la France, donc passer par Paris, et prendre mon travail. Et donc, à ce moment-là, je me dis, je note son adresse et je vais aller lui faire une surprise. Donc, j'arrive à Paris, je vais à Bobigny. Alors, elle n'avait pas changé de ville, elle, par contre. Elle était dans une autre tour, mais à 300 mètres de là où on s'était connus. Et donc, je sonne à sa porte. Pour moi, le lien, il est tellement fort que je n'ai pas peur qu'elle m'ait oublié. Et pour moi, il n'y avait pas d'obstacle majeur à nos retrouvailles, même si c'était dans la surprise. Donc, moi, j'arrive, j'étais bien habillé, mais j'étais pas super bien habillé. Et puis surtout, j'avais plus de cheveux, alors qu'elle m'a connu avec des cheveux. Donc, j'étais à moitié chauve. J'avais plus de dents à cause de mon accident. Et puis, j'étais un peu défiguré parce que j'avais eu un écrasement sous les yeux. Donc, effectivement, elle pouvait s'attendre à autre chose que ce que je représentais. Alors, je sonne à sa porte et rien. Rien du tout. Donc, je frappe, rien non plus. Donc, je me dis, bon, elle n'est pas là. Donc, je lui laisse un mot dans sa boîte aux lettres. Alors, j'écris sur ce mot, « Bonjour, je m'appelle Frédéric Balseau, je recherche une Nathalie Sander qui habitait à Pantin puis à Bobigny dans les années 70-73. Et je lui ai donné, avant de partir à Saint-Pierre-et-Miquelon au Canada, un petit courant miniature. Voilà, si c'est vous, vous pouvez me contacter et puis je lui donne mon numéro de téléphone. » Et donc, je repars, je mets ça dans la boîte aux lettres et je repars. Voilà, je tente et puis je verrai bien ce qui va se passer. Alors ça, c'était un vendredi, donc moi je vais pour mon travail le samedi, je rentre le dimanche et le mercredi, je reçois un coup de fil et au bout du fil, j'entends Nathalie Sander. Elle me dit... Bonjour, je suis Nathalie Sander et c'est Frédéric. J'ai dit oui, c'est Frédéric. Et donc, on s'est retrouvés, tout simplement. On s'est retrouvés comme si on ne s'était jamais vraiment quittés. Ça faisait 19 ans quand même. C'est une grande joie. Je suis fébrile aussi, pour ne pas dire de bêtises. Je suis ému. Il y a plein de sentiments qui arrivent tous en même temps. C'est compliqué à gérer. Et j'arrive tranquillement, je dirais. Tranquillement. Elle, je la sens tout excitée, mais émue aussi. Émue parce que, elle me le dit, jamais elle se serait attendue à quelque chose de pareil. Elle se souvenait très très bien de moi, mais elle était vraiment très 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 surprise d'avoir trouvé mon mot. Et du coup, elle en a parlé à sa sœur, à sa meilleure copine qui me connaissait aussi de l'enfance. Et tout ça, ça l'a troublée. Alors, dans la discussion au téléphone, on reparle de notre dernier jour en commun. Et là, elle me dit qu'elle a gardé le Coran miniature avec les deux petits porte-clés, qu'elle les a dans une boîte et que régulièrement, elle va les regarder, elle va les toucher et que ça lui rappelait Frédéric et son enfance. Ça m'émeut, mais je la sens aussi émue, très très émue. Et je me dis que malgré les années, il y a toujours ce lien, il y a toujours cette relation, en symbiose spéciale qui fait que c'est naturel entre nous. Alors, on essaye de se décrire aussi. Et donc, elle me demande comment je suis. Et moi, je lui dis que les hommes changent avec le temps, que j'ai plus trop de cheveux. Je lui dis pas que j'ai pas de dents. Et moi, je lui demande comment elle est. Et elle me dit qu'elle n'a pas changé. Elle a toujours les cheveux longs, toujours grande, fine. Pour moi, je vois toujours la même Nathalie de mon enfance. Après ce premier coup de fil, on décide de se contacter régulièrement, soit par écrit, soit par téléphone. Quand je dis régulièrement, c'est au moins une fois par semaine. Ça va durer pendant 6 mois. Et donc pendant 6 mois, on se contacte régulièrement. Et donc là, on se dit effectivement nos vies respectives, comment ça se passe. Alors elle me dit qu'elle n'a pas changé de Bobigny, qu'elle est avec quelqu'un. Moi, je raconte un peu mes périples en Outre-mer. Qu'est-ce que je suis devenu? On s'échange des photos. Alors moi, la première photo que je lui envoie, c'est en combinaison de plongée à 30 mètres. Donc en fait, elle ne voit que mes yeux, en fait, quelque part. Elle ne voit pas que je suis chauve, elle ne voit pas que je n'ai pas de dents. Et elle, sa première photo qu'elle m'envoie, c'est la photo de la petite fille de mon enfance, en CE1. Déjà, là, il y avait, une connivence à ce niveau-là. Donc, voilà, quoi. On s'envoie des photos, mais en fait, pas des photos récentes. On s'envoie des photos d'adolescents ou de jeunes filles ou de jeunes hommes. C'est un peu par peur du moment présent, enfin, surtout pour moi, en tout cas. Et donc, je me dis, je préfère lui réserver ça de visu, pas par photo. Je veux ressentir ce qu'elle va ressentir quand elle me verra vraiment, quoi. Donc, j'apprends qu'elle a quelqu'un. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Et elle est bien dans sa relation de couple à Paris, quoi. Mais moi, je rentre pas dans cette perspective-là. C'est-à-dire que je veux la revoir pour la revoir et pour échanger sur nos vies, sur nos souvenirs, nos connivences, notre symbiose. J'ai même pas l'idée d'aller plus loin. Pour moi, elle est en couple, donc voilà, quoi. C'est comme ça. C'est la vie, tout simplement. Un an après que je suis remonté à Paris, je rentre à Paris toujours pour mon travail. Et là, je l'appelle et je lui dis, ben voilà, je monte sur Paris, est-ce qu'on peut se voir? Et donc là, elle me donne rendez-vous chez elle. J'arrive à Paris, je me fais 2 heures de métro. Je me rends pas trop compte de l'heure, en fait, parce que j'avais pas trop l'habitude. Et j'arrive avec 2 heures de retard chez elle. Je sonne à sa porte. Elle m'ouvre et je pense qu'elle me reconnaît pas. Donc parce que j'arrive sans les cheveux, sans les dents, j'ose pas trop sourire, mais bon, elle s'en aperçoit. Hein. Et on s'embrasse quand même. À moi, je retrouve la petite fille de mon enfance. Ça, c'est clair et net, je retrouve ma princesse. Ça, c'est sûr. Ah, elle est très très belle, très très belle. Elle est comme je l'imaginais en fait. Donc toujours pareil, fine, grande, eurasienne, les cheveux longs, avec un grand sourire. C'est émouvant. Moi j'aurais voulu la prendre dans mes bras, mais bon, je me suis dit, non, c'est pas la peine, ça va pas le faire. On va laisser du temps quand même. Mais je voulais la prendre dans mes bras juste pour, plus pour la serrer comme une amie, hein. C'est tout, hein. Bah, elle me fait rentrer. Alors, ce qu'elle m'a précisé, c'est que, en fait, elle a voulu me voir seule, sans son copain. Et donc, je me dis, tiens, c'est bizarre. Alors, en fait, elle me voulait pour elle toute seule, c'est ce qu'elle m'a dit après. Et donc, je me dis, bon, bah, effectivement, le lien, il est encore là, en fait. Et au fur et à mesure de notre rendez-vous, on va chez sa sœur, qui me reconnaît, bien sûr. Et on va même, elle avait un rendez-vous chez son docteur, et il se trouve que ce docteur-là, c'était notre docteur d'enfance, pareil. Et il m'a reconnu. Dès que je vois le docteur, effectivement, j'ai tout mon passé qui ressurgit, mes souvenirs d'enfance, avec son fils, avec Nathalie, avec mes copains. Voilà, tout ce qui était pour moi essentiel dans ma relation avec Nathalie. Alors après ce rendez-vous, moi j'avais un copain qui habitait sur Paris et on devait aller voir un concert. Elle me dit, si tu veux, je te dépose au concert et puis voilà, on se quitte là, quoi. Et donc je dis, ouais, ok, pas de problème. Donc je descends de la voiture, on s'embrasse, proche même qu'on se serre un petit peu. Et puis voilà, on se dit, on se recontactera puisqu'on s'était contacté depuis tout ce temps. Il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, quoi. En fait, c'est un grand bien-être, un grand bonheur d'avoir retrouvé ma Nathalie. Après, je rentre en Corse. On continue à échanger par téléphone et par lettre. Et il se trouve que, à ce moment-là, en Corse, moi, je redeviens célibataire. Et donc, je lui propose de venir passer Noël en Corse avec son copain. Parce que j'avais un grand appartement à l'époque. Et donc, voilà, pour qu'on se revoie et qu'on échange encore plus, quoi. Parce qu'au fur et à mesure des échanges, je voyais qu'il y avait quand même le lien qui redevenait très fort. Et donc, je lui propose. Et il se trouve qu'elle vient en Corse pour Noël, mais sans son copain. Je ne sais plus pour quelle raison, mais il n'avait pas pu venir. J'ai fait visiter la Corse, bien sûr, hein, c'est la moindre des choses. Et donc, on passe beaucoup de temps, effectivement, ensemble, à se connaître mieux. On est complices dans les regards, dans les rires, dans les sourires. Quand on marche, tout ça, je lui tiens la main. Je la mène dans des endroits, effectivement, un peu extraordinaires. Mais bon, la Corse, il n'y a pas trop de mal. Quand elle est arrivée à l'aéroport, on s'est dit bonjour en s'enlaçant. Et là, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru tout le corps. Je tremblais. Elle l'a senti, hein. Elle n'a rien dit, mais elle l'a senti. Je n'ai pas pu me contrôler. Alors, pendant son séjour en Corse, on parle, et je lui dis que moi, je ne l'ai jamais oublié, que j'ai toujours été attiré, en tout cas, par des femmes qui s'appelaient Nathalie, avec les cheveux longs, et que je ne l'avais pas oublié. À la fin de son séjour, je la ramène à l'aéroport, où on s'enlace à nouveau. J'ai un petit frisson quand même, moins intense que le premier, parce que celui-là, j'arrive à le maîtriser. Et puis, on se quitte très, très, très bons amis. Moi, j'ai l'occasion, avec un ami et collègue, de partir chez mes parents qui étaient en Guadeloupe au printemps. Et donc, je lui propose de venir toujours avec son copain. Et donc, elle me dit oui, d'accord. Et donc, elle essaye de faire venir pareil son ami, mais il n'a pas pu venir non plus. Histoire d'argent, enfin bref, il ne pouvait pas venir. Et donc, du coup, on se retrouve tous les trois à partir en Guadeloupe chez mes parents pour un mois. Et là, le lien va se renforcer. On va être de plus en plus ensemble. On fait des promenades ensemble le soir. Elle vient en chasse sous-marine avec moi. Voilà, on fait plein d'activités communes, en fait. Et le lien continue à se renforcer, à s'épanouir. Je pense que le langage paraverbal fait que on s'aperçoit qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. Mais on n'en parle pas verbalement. Déjà dans l'avion, quand on revient des Antilles, il y a des décalages horaires, tout ça, on est fatigué dans l'avion. Bon, c'est pas évident dans un avion pour se reposer. Et donc, elle se couche sur mes genoux pour se reposer. Et moi, je me couche sur ses genoux aussi pour me reposer. Donc déjà, là, il y avait une promiscuité des corps qui fait que ça renforçait toujours ce lien, quoi. Et donc, on arrive à Paris. Sa mère nous réceptionne et on va dans un restaurant manger un morceau avant que moi je reparte sur Toulouse. Et donc on mange un morceau, elle s'absente un moment, et sa mère me dit « ça serait bien que vous soyez ensemble, ça serait vraiment bien. » Donc je lui dis « mais oui, mais bon, elle est avec quelqu'un, et moi, il n'est pas question que je fasse quoi que ce soit, c'est elle qui décide, et c'est, voilà, quoi, ça, c'est comme ça. » quoi. Donc on en reste là, avec sa mère, et elle m'accompagne à la gare, donc, et sur le quai de la gare, juste avant de partir, donc on s'enlace pour se dire au revoir. Et avant que le train démarre, en fait, je lui vole un baiser. Alors elle a été toute surprise de mon acte. Et je monte dans le train et puis le train part direct de suite. Donc elle n'a pas trop le temps de réagir. Je pense qu'elle a été très surprise. C'est un acte fort, c'est une tentative en tout cas. Je voyais bien qu'il y avait de plus en plus d'atomes crochus et de connivence et que c'était fusionnel. Donc je me dis, on va voir, on va tenter, on verra bien ce que ça donne, quoi, hein, tout simplement. Là, c'est elle qui a un frisson. Moi, c'était prémédité, donc je m'y attendais. C'est elle qui s'y attendait pas, donc c'est elle qui a eu le frisson cette fois-ci. Alors c'est un baiser, attention, hein, c'est un bisou sur la bouche, c'est pas un baiser. Hein, c'est un baiser volé d'enfant, quoi. Hein. Moi, je rentre, donc on se recontacte. Effectivement, je dirais que moi, je la mets dans une position inconfortable, malheureusement. Et donc, elle ne sait pas trop comment réagir. Mais il se trouve que je la réinvite en Corse et qu'elle revient. Et qu'elle revient toute seule, on est bien d'accord. Et donc, je me dis, si elle revient, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé forcément. Et il se trouve que pendant son séjour en Corse, moi, je suis invité au mariage d'un de mes meilleurs copains à Castres. Et donc, on fait le voyage ensemble, puisque je demande à mon copain si elle peut venir. Il me dit « ouais, il n'y a pas de problème ». Donc, on arrive au mariage, la soirée se passe. Et puis, il se trouve que le lendemain, ça s'est concrétisé. Alors, c'est très fort, c'est même trop fort. C'est même trop fort parce que quelque part, moi je suis un peu paralysé en fait, tout simplement. Et c'est elle en fait qui fait le premier pas, c'est pas moi. J'étais sur la réserve, je savais plus comment faire en fait. Je suis intimidé et je sais pas trop comment me comporter en fait. Et donc, c'est elle qui prend les devants et ça se concrétise, voilà, naturellement. On est tous les deux très heureux. Alors, c'est dur à l'écrire, ce genre de moment. C'est le bonheur, hein, tout simplement. Le lien, il a toujours été, depuis tout petit. Et en fait, c'est un aboutissement, quelque chose qui a été naturel. Naturel, qui s'est développé, qui s'est enrichi, qui s'est métamorphosé pour donner quelque chose de magnifique. Après cette concrétisation, après le mariage de mon amie, elle repart sur Paris. Et là, elle est très malheureuse, en fait. Elle ne sait plus trop quoi faire. Et moi, par deux fois, en fait, je prends l'avion au dernier moment pour la rejoindre, pour la réconforter, pour être à côté d'elle, pour être près d'elle. Elle était malheureuse parce qu'elle a des doutes et elle ne sait pas quoi faire, en fait. D'un côté, elle avait un ami qui était gentil, qui l'avait soutenue dans une épreuve. Et de l'autre côté, elle avait son amour d'enfance qui est revenu, ce lien qui était fort, et donc elle était partagée. Ce qu'il a décidé, c'était le fait de que ce lien-là est très fort et, je dirais, presque indestructible. Et aussi, ce qu'il a décidé, c'est qu'à l'époque, ses parents avaient divorcé et elle avait fait un rêve où elle me voyait venir tout en blanc sur un bateau. Venir la chercher. Et ce rêve-là, ça l'avait toujours marqué. Et je pense que le fait aussi de venir régulièrement, de la rassurer, d'être à côté d'elle, ça l'a décidé à venir en Corse pour vivre avec moi. Donc elle vient vivre en Corse, début 93. Au départ, ni l'un ni l'autre, on voulait d'enfants. C'est bizarre, mais bon, c'était comme ça, on ne voulait pas d'enfants. Et donc elle vient vivre en Corse pendant 2 ans. On vit le grand amour, hein, on est super heureux, on vit dans le bonheur et tout. Et au bout de 2 ans, en fait, on décide d'avoir des enfants. Et c'est devenu naturellement, c'est-à-dire qu'on n'en a pas discuté. On n'a pas réfléchi plus que ça, savoir si c'était bien, pas bien. On était tellement en symbiose. Alors, il faut dire que à chaque fois qu'on était chez des amis, on avait toujours des regards complices et on se comprenait. Et les amis étaient surpris du fait qu'on se comprenne rien qu'en se regardant. Et pas du tout en parlant d'une connexion qui était hors norme à ce niveau-là. Et tout simplement, on s'est dit, on va fonder une famille, on va avoir des enfants. Et donc, on a eu une fille et un fils qui maintenant sont grands. Alors, aujourd'hui, on est mariés depuis 2001. Mais bon, on s'est connus bien avant. Hein. Et on a 2 enfants, 2 très beaux enfants, une fille, et Kim, et un garçon, Lou. Et on est très heureux. On continue notre vie... dans ce monde enchanté, Nathalie, c'est toujours la femme de ma vie, effectivement. Ça a toujours été la femme de ma vie, ça restera la femme de ma vie. Quand je la regarde, je revois tout ce qu'on a vécu depuis le CE1. Ça, c'est indestructible et c'est intemporel. Je ne sais pas si c'est une histoire d'amour très particulière, parce que je pense qu'il y en a d'autres, des histoires d'amour particulières, mais c'est une histoire d'amour, en tout cas, qui est hors du temps. C'est-à-dire que malgré le temps, malgré l'éloignement, quoi qu'on en dise, c'est un amour qui a survécu et qui s'est enrichi, en fait, quelque part, de cette absence et de cette durée, puisqu'en fait, il a magnifié tous ses souvenirs et toute cette relation. Alors j'aimerais dire à Nathalie que je l'aime et que je l'aimerai toute ma vie jusqu'à la fin. C'est l'amour de ma vie et ça a toujours été l'amour de ma vie et ça restera l'amour de ma vie.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode. Et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast « Les Rescapés ». Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein. Un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi « Est-ce que c'est normal ?», notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute ! Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.